Bonjour. Nous allons commencer notre colloque. Bon, merci d'être venu. Aujourd'hui, c'est notre cinquième colloque. Ces colloques sont organisés dans le cadre du programme de formation en santé, financé par les instituts canadiens en santé. Le premier colloque a été organisé en 2003. Et l'objectif de ce premier colloque, avec les autres activités du programme, c'était de compléter la formation universitaire des futurs chercheurs. Parce que la recherche médicale devient de plus en plus complexe et la formation qu'ils reçoivent dans les universités doit être complétée pour leur permettre de faire face à cette complexité. Mais ce cinquième colloque, à un autre, ça a évolué. Parce que le niveau de conférence a permis de faire évoluer les colloques. Actuellement, nos colloques ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est de rehausser les standards en éthique et en intégrité scientifique au Québec. Et le deuxième objectif, c'est de faire avancer les connaissances en éthique de la recherche et en intégrité scientifique. C'est les deux objectifs. Donc, vous qui êtes dans la salle, donc, pour nous, les organisateurs, vous êtes là pour contribuer à augmenter le niveau des standards en éthique et en intégrité scientifique au Québec. Et vous êtes là aussi pour faire avancer les connaissances en éthique de la recherche et en intégrité scientifique. Donc, vous n'êtes pas là juste pour écouter les conférences, vous êtes là pour contribuer pour faire avancer la science. Ben, si les deux objectifs sont poursuivis jusqu'ici avec optimisme, c'est grâce à deux personnes. Leur soutien constant ne nous a jamais fait défaut. Ils sont toujours disponibles. Il s'agit de Maître Pierre Deschamps et de Maître Michel Giraud. Pour faire ce cinquième colloque, nous avons eu recours, on a formé un comité préparatoire. Et les membres ont répondu, on a eu des réunions, on a eu des échanges. Donc, alors, je saisis l'occasion de les remercier. Le réseau, ces colloques sont organisés par le réseau en santé respiratoire. Mais le réseau en santé respiratoire, c'est une création du Fonds de recherche du Québec Santé. Nous sommes heureux d'avoir ici le directeur scientifique du Fonds de recherche Santé. C'est notre patron. Alors, il nous a fait l'honneur d'être là. Ben, nous allons laisser notre patron ouvrir notre colloque. À vous la parole.
Merci, docteur Aouissi. C'est pas tous les jours qu'on est appelé patron. C'était pas tout à fait dans ma carte de visite. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici ce matin pour inaugurer ce colloque. Colloque du réseau de santé respiratoire du FRQS. Vous savez que le FRQS a créé à date 18 réseaux thématiques. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on crée des réseaux thématiques. Et cette année particulièrement, on est dans un processus de révision, de modernisation des réseaux existants, justement avec l'objectif de comprendre de façon plus précise quels sont les éléments constituants. Pourquoi un réseau en 2014, peut-on se demander, parce que il est clair qu'il y a 20 ans, quand les réseaux ont été créés, l'objectif de départ était de permettre aux chercheurs de différentes institutions, de différents milieux, de différents horizons, de travailler ensemble et de développer des projets communs. À l'ère de l'Internet, des iPhones, des iPads, on peut se demander si on a encore besoin de réseaux, et c'est l'objet de notre réflexion en ce moment. Mais ce matin, ce que je constate, c'est que ce cinquième colloque sur l'éthique et l'intégrité scientifique fait la démonstration justement de l'utilité de réseau. Ce qu'il faut mentionner, c'est que le réseau de santé respiratoire a vraiment été pionnier, a eu une vision à long terme. Au départ, en 2003, ces colloques sur l'intégrité étaient orientés principalement vers les membres du réseau, mais on voit qu'en 2014, le colloque que vous organisez est un colloque qui est extrêmement ouvert, il est interdisciplinaire, il est intersectoriel, il attire des gens qui font partie d'autres réseaux. Donc, encore une fois, je pense que ça témoigne de l'effet levier que votre réseau a eu dans la communauté scientifique en santé du Québec. Ça témoigne du rayonnement extrêmement important que vous avez. Et encore une fois, cette perspective à long terme que vous avez imaginée, cette créativité dont vous avez fait preuve en 2003 en créant ces colloques qui reviennent de façon périodique. Il est clair que l'éthique et l'intégrité en recherche sont devenus des thèmes très porteurs dans les communautés scientifiques partout dans le monde. Et au Fonds de recherche du Québec Santé, mais pour les trois fonds de recherche du Québec qui sont maintenant regroupés sous un parapluie avec le scientifique en chef du Québec, il est clair que ces préoccupations par rapport à l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, cette préoccupation fait partie de ce que nous sommes. Trois exemples précis. D'abord, vous savez que chacun des trois conseils d'administration est assisté par un comité d'éthique et d'intégrité scientifique formé de membres des conseils d'administration. C'est vous dire à quel point cette préoccupation-là est très présente chez nous. Je salue ce matin Mylène Deschênes, qui est la directrice de l'éthique et des affaires juridiques au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, vous savez qu'à la fin de septembre, nous avons été en mesure d'annoncer notre nouvelle politique pour la conduite responsable en recherche. Encore une fois, un travail qui a mobilisé l'ensemble des communautés scientifiques au Québec et qui nous procure, qui nous donne une feuille de route extrêmement importante qui va s'agir maintenant de mettre en application pour les prochaines années. Enfin, un troisième exemple de l'implication des fonds de recherche dans ce dossier, c'est certainement tout le travail que nous avons fait en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec les quatre RUIS du Québec, les réseaux universitaires intégrés en santé, c'est-à-dire tout ce travail qui a constitué à réexaminer la façon dont on évalue les projets multicentriques au Québec, avec un objectif de simplification du processus. Je pense que le point de départ de ce travail, qui a été extrêmement important, a été la réalisation que la recherche clinique se fait dans un contexte mondialisé et que dans ce contexte-là, la compétition est féroce et que certainement, il faut que les processus de révision éthique soient tout à fait adéquats, mais soient quand même aidants au niveau de la promotion de la recherche clinique. Donc, avec cet objectif-là, tout un travail de discussion, de révision des comités actuels a été entrepris il y a plus d'un an et demi, et nous arrivons au terme de ce travail avec des propositions extrêmement précises qui devraient nous permettre, justement, de poursuivre le travail excellent de révision éthique des études multicentriques, mais en même temps de tenter de le faire dans des temps beaucoup plus opportuns. Alors voici trois exemples de l'implication des fonds de recherche dans ce dossier extrêmement important. Et pour terminer, j'ai parcouru ce matin le programme de votre colloque, un programme extrêmement riche. Malheureusement, je ne pourrai pas rester pour l'ensemble parce que ce matin, je dois faire preuve d'ubiguïté. C'est une nouvelle. Il y a plusieurs conférences qui se déroulent en parallèle, même ici au Palais des Congrès. Une autre conférence à l'autre bout du corridor sur l'innovation en santé. De mon point de vue, je pense que les thèmes sont en continuité, mais il reste que ce sont des colloques qui sont, qui sont séparés. Mais ce que je retiens du programme ici, c'est que il est clair que toute cette réflexion sur l'éthique de la recherche, sur l'intégrité en recherche, ce n'est pas une réflexion qui est détachée du processus de recherche. C'est une réflexion qui s'inscrit dans un processus de gouvernance de la recherche, un processus de gouvernance qui vise la qualité des recherches et la performance. Et je pense que c'est le thème unificateur que je vois à travers le programme. Encore une fois, merci beaucoup d'être ici ce matin et je vous souhaite un excellent congrès. Merci.
C'est juste pour vous dire que toutes les conférences seront enregistrées et seront mises sur le site, sur un site. Et puis, éventuellement, on pourra faire les DVD si on a les possibilités.
Alors, bonjour. Avant de présenter nos conférenciers, on m'a demandé de me présenter. Donc, Sylvain Auclair, enseignant en philosophie. Je contribue depuis maintenant 20 ans aux travaux de l'Institut de consultation de recherche en éthique et en droit. Je siège sur plusieurs comités d'éthique. Je préside d'ailleurs le comité d'éthique de la recherche de l'Institut en réadaptation de sciences physiques de Québec. Alors, c'est avec honneur et plaisir que je serai le président de séance ce matin. Je serai également maître du temps avec un petit peu moins de plaisir, donc on a un peu de retard à accumuler, c'est pas grave. Alors, je vous rappelle, je dois rappeler aux conférenciers qu'au début de chaque conférence, ils doivent déclarer s'ils sont ou non en conflit d'intérêts avec leur conférence, étant donné que c'est un colloque crédité. Et d'ailleurs, dans le formulaire là, d'évaluation, les participants doivent cocher si le conférencier a, oui ou non, déclaré son conflit d'intérêts, son absence de conflit d'intérêts au début de la présentation. Donc, petit rappel. Vous avez, selon l'horaire, il y a donc deux conférences. Monsieur Pierre Deschênes, Mylène Deschênes. Nous allons attendre une fois que les deux conférences seront présentées pour poser les questions. Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre premier conférencier. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Monsieur Pierre Deschênes, précisons que, outre son expérience dans l'enseignement, Maître Deschênes s'est illustré dans la recherche et dans la pratique du droit. Il a été associé au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec pendant plus de 30 ans. Rappelons qu'en 1994, il s'est vu confier par la ministre de la Santé et des Services sociaux de l'époque la présidence du comité d'experts chargé d'évaluer les mécanismes de contrôle en matière de recherche clinique au Québec. Il s'en est suivi le rapport Deschênes, qui est à la base du plan d'action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique. De 1999 à 2009, il a été nommé membre du Tribunal canadien des droits de la personne. En 2000, il a été fait membre de l'Ordre du Canada pour souligner son apport à la recherche et à la cause des enfants atteints de cancer. En 2003, le gouvernement français l'a nommé chevalier de l'Ordre des Palmes académiques pour saluer son engagement remarquable en faveur des droits de la personne et souligner son rôle particulièrement actif pour la promotion du bijuridisme et du bilinguisme au Canada et dans le monde francophone. En 2013, il est devenu avocat émérite au sein du barreau du Québec. C'est avec plaisir, donc, que nous accueillons Maître Pierre Deschênes et sa conférence a pour titre « La gouvernance en éthique de la recherche, comment en améliorer la qualité ».
On peut le mettre plus... OK. Alors, bon matin à tous. Il me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous donner la conférence d'ouverture. Comme préambule, j'aimerais vous dire un petit peu, parce que je me présente comme avocat éthicien, et à la réflexion, quand on se demande qu'est-ce que c'est qu'un éthicien, mais pour moi, c'est d'abord et avant tout un éveilleur de conscience. Ce qui fait que dans plusieurs milieux, les éthiciens sont malvenus. Parce qu'éveiller trop les consciences, faire trop réfléchir les gens, parfois, ça a des répercussions sur, disons, la façon dont les gens voient leur travail. Et un éthicien, c'est pas tellement celui qui apporte des réponses, mais c'est celui d'abord et avant tout qui apporte de bonnes questions, qui pose de bonnes questions. Conflit d'intérêts, j'en ai deux. Alors, vous cocherez que oui, le conférencier a déclaré ses conflits d'intérêts. Je suis consultant en éthique pour une entreprise qui effectue des recherches cliniques dans le secteur privé, principalement avec des volontaires sains. Et je suis consultant en éthique pour une compagnie pharmaceutique en rapport avec les programmes d'accès aux médicaments. En 2015, 20 ans se seront écoulés depuis la publication du rapport Deschamps sur l'évaluation des mécanismes de contrôle en matière de recherche clinique. On pourrait dire 20 ans déjà. Depuis ce temps, l'environnement clinique, éthique, légal, réglementaire, administratif, relatif à la recherche, a beaucoup changé. L'encadrement également. Et souvent, ce que l'on note, c'est que depuis ce temps-là, on a eu de plus en plus de textes régulateurs, des textes qui se sont empilés les uns sur les autres et qui ont fait tiquer plusieurs personnes en disant comment on va maîtriser le contenu de tous ces textes-là. Depuis le rapport Deschamps, il y a eu deux énoncés de politique au niveau fédéral. Il y a eu le plan d'action ministériel. Il y a eu des ajustements au plan d'action ministériel. Et ça, c'est sans compter les nouvelles législations, les nouvelles normes, les nouveaux cadres, les nouvelles réglementations, les nouveaux guides, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, pour la communauté scientifique et même pour la communauté éthique, on se demande comment on va gérer tout ça. Un thème que j'aime bien utiliser, c'est le thème d'entreprise de recherche, ou l'entreprise de recherche, oui, parce que c'est significatif. La recherche aujourd'hui, c'est pas un chercheur dans son coin qui fait de la recherche, puis après ça, il publie ses résultats, mais ça demande le concours de plusieurs acteurs, comme on le verra. Et on peut se demander si depuis 20 ans bientôt, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que l'entreprise de recherche s'emporte mieux pour autant? Est-ce qu'elle est plus efficace, plus performante? Est-ce que les participants sont mieux protégés? Parce que très souvent, on regarde en termes d'efficacité, à savoir, est-ce que les délais sont raccourcis, etc., etc. Mais il y a un élément parfois que l'on oublie quand on fait des réformes. Le but de l'opération, en bout de ligne, c'est oui, de faire de la recherche pour qu'un plus grand nombre de gens dans la société puissent bénéficier des résultats. Mais comme on compte souvent sur des êtres humains pour faire avancer la recherche, il faut s'assurer qu'ils sont bien protégés. Et on peut se demander, est-ce que la gouverne s'en trouve elle-même améliorée? Quand je disais entreprise de recherche, pour moi, c'est l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation de projets de recherche. Et j'ai mis dans la colonne de droite qui sont en fait les acteurs, et j'en ai certainement oublié. Il y a les promoteurs, ceux qui financent la recherche, du côté privé, du côté public. Il y a les chercheurs. Il y a le personnel de recherche qui, au quotidien, est impliqué dans les activités de recherche. Il y a le personnel de clinique qui est souvent sollicité. Il y a les agences réglementaires qui surveillent si les choses sont faites conformément à la réglementation, à la législation. Il y a les comités d'éthique et il y a également les participants. Certains vont dire, et peut-être qu'on en apprendra un peu plus ce matin, que l'entreprise de recherche est en crise, que le nombre d'essais cliniques est en train de diminuer, du moins en Amérique du Nord, au profit de d'autres pays ou de d'autres continents. Certains vont dire que l'entreprise de recherche n'est pas performante. Et souvent, on regarde les délais qui précèdent l'activation d'un projet de recherche et on dit qu'ils sont encore trop longs. Et moi, je me rappelle, il y a 20 ans, on disait que les délais étaient trop longs. Puis on se retrouve 20 ans plus tard, puis on dit que les délais sont encore trop longs. Il va falloir se poser de bonnes questions. Les contrôles éthiques ont été renforcés, et là, on dit que la multiplication des contrôles ralentit la recherche. Je voudrais prendre quelques secondes ici pour vous dire comment il est important d'avoir des contrôles éthiques au niveau de la recherche. Ça fait 25 ans que j'œuvre dans des comités d'éthique, et encore aujourd'hui, après 25 ans, je suis encore plus convaincu de l'importance et de la pertinence du rôle que jouent les éthiciens et les comités d'éthique en ce qui concerne les activités de recherche, et de même que tous ceux qui participent aux activités de recherche, qui ont cette fibre pour l'éthique de la recherche et qui sont capables de dire « Non, ceci, ça ne fonctionne pas, on ne fera pas ça ou on va poser des questions. » On peut voir comme les contrôles éthiques comme des ralentisseurs des activités de recherche, mais croyez-moi, ils sont très importants. Est-ce qu'ils peuvent être mieux? Est-ce qu'ils peuvent être plus simples tout en étant aussi rigoureux? Je pense que oui. Quand on parle d'entreprise de recherche, puis on parle de gouvernance maintenant, la gouvernance, ça désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un organisme ou d'une activité. C'est important, la gouvernance en éthique de la recherche ou en recherche. Et quand on parle de gouvernance, on parle macro. Mais on parle aussi un peu micro. Mais il faut voir, comme on dit, le big picture, le portrait d'ensemble. Pour moi, la gouvernance au niveau de l'éthique de la recherche est encore erratique. Il y a peut-être encore trop de compétition et pas assez de coopération. Les gens ne travaillent pas assez ensemble, tout en conservant leur indépendance, que ce soit comme promoteur, comme chercheur, comme comité d'éthique. Mais il y a un constat qu'on fait, que je fais encore aujourd'hui, c'est qu'encore c'est la compétition qui mène plutôt que la coopération. On se voit plus comme des adversaires, comme des gens qui pouvons travailler ensemble pour améliorer la recherche et la découverte de nouveaux médicaments. Alors, question-réponse, parce que je vous avais dit qu'un éthicien, c'est quelqu'un qui pose des questions. Près de 20 ans après le rapport Deschamps, où en sommes-nous? Ma réponse est, malgré tous les progrès réalisés, et Dieu sait s'il y a eu des progrès qui ont été réalisés, et on ne peut penser qu'au Québec, avec ce qui s'est passé à la suite du rapport Deschamps, comment on l'a mis en œuvre, et comment depuis, et ça c'est tout à l'honneur du ministère, d'avoir d'une façon soutenue, assuré que des recommandations où tout l'aspect éthique ne soit jamais oublié par qui que ce soit, et aussi au niveau fédéral, au niveau de l'énoncé de politique. Donc, il y a beaucoup qui a été fait, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, comment faire pour mieux faire? Depuis plusieurs années, j'ai essayé de chercher à l'extérieur du milieu de la recherche, à l'extérieur du milieu de l'éthique, à l'extérieur du milieu du droit, qu'est-ce qui pouvait nous inspirer pour avancer, pour encore mieux faire. Et je suis tombé sur ces deux personnes. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous en reconnaît l'un ou l'autre, mais je vais vous les présenter dans un instant. Ce sont des gens qui ont eu une profonde influence sur ma façon de penser. D'abord, Edward Deming. On parle souvent de la roue de Deming, puis les gens disent « Ah oui, moi je connais Deming, moi je connais la roue de Deming, pour moi, c'est la fin du monde, c'est le début puis le commencement de Deming. » Mais Edward Deming, c'est un statisticien américain qui, pendant 30 ans, a œuvré au Japon, de 1950 à 80, à former les gestionnaires japonais à usiner des produits de qualité et à offrir des services de qualité. Et quand on regarde le Japon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on produit, comment ils le font, je pense qu'on a intérêt à regarder, non pas uniquement vers l'Europe, mais également vers l'Asie, mais surtout le Japon. Et par la suite, il a œuvré durant 13 ans, parce que quand il a quitté le Japon en 1980, il avait 80 ans. Alors, il a travaillé jusqu'à l'âge de 93 ans aux États-Unis à donner des conférences et des conférences. Je n'ai jamais connu ce grand homme-là, mais depuis 5 ans, je participe au séminaire de recherche Deming qui se tient l'an passé, c'était à New York, cette année, c'était à Washington, et j'ai connu sa fille, et j'ai pu causer avec sa fille, je suis allé manger chez elle, je connais bien son petit-fils, et j'ai commencé à m'imprégner de la philosophie de cet homme-là. Le suivant, vous le connaissez probablement encore moins, Taishi Ono, un ingénieur industriel japonais, qui a été un employé puis un cadre chez Toyota et qui est crédité pour avoir été l'artisan de la deuxième révolution organisationnelle du 20e siècle. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le Toyota Production System. Mais c'était d'abord un ingénieur, mais c'est une personne qui a marqué l'histoire industrielle. Il est inconnu souvent en Amérique, parce qu'on, comme je vous dis, on regarde souvent vers l'Europe. Mais on a fêté, je pense, en 2011, les 100 ans de sa naissance. Et qu'est-ce qui m'a attiré chez deux personnes-là? C'est leur philosophie de gestion. Lorsqu'on considère l'œuvre des deux, on s'aperçoit que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit au niveau de la qualité, c'était animé par trois principes éthiques. Respect des personnes, je pense que tout le monde est d'accord, le respect, on le trouve partout, mais allez voir comment eux le voyaient, le respect. L'élimination du gaspillage. Ça, c'est une considération qu'on a un peu oubliée dans notre façon de gérer toutes les activités de recherche et l'éthique de la recherche et l'amélioration continue. Donc, trois principes, respect des personnes, élimination du gaspillage, amélioration continue. Pour moi, il y a un principe fondamental, puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, ben, il vivra avec sa conviction. Ne pas respecter les gens, c'est pas éthique. C'est un manquement à l'éthique que de ne pas respecter les gens. Mais comment ces deux hommes-là voyaient le respect des gens? Il y avait trois éléments. L'écoute des employés, la valorisation des employés et le développement des employés. Pourquoi écouter ces employés? C'est qu'au sein d'une entreprise, les employés jouent un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes et dans l'amélioration continue des processus. Et on peut se demander si ce n'est pas faute d'écouter ceux qui sont sur le terrain, ceux qui font le travail, qu'on n'a pas réussi à améliorer, comme on aurait dû le faire, plusieurs éléments au niveau de la recherche et de l'éthique de la recherche. C'est la personne en l'action qui peut mieux comprendre les problèmes et améliorer les processus, en autant qu'elle soit écoutée, formée et valorisée. On ne doit pas considérer les employés. Puis là, je m'adresse au personnel de recherche. Je peux m'adresser aussi aux gens de comité d'éthique, comme de simples exécutants. Voici les ordres, vous les appliquez, vous ne posez pas de questions. L'entreprise de recherche doit faire appel à la créativité de chacun des acteurs, leur permettre de développer leur potentiel. Et ce qui est commun aux deux, c'est l'accent sur la créativité que chacun a. Le respect, il s'inscrit dans ça. Et la créativité, ça ne demande pas des muscles, mais ça demande un effort intellectuel. Face à des problèmes, puis quand on parle à des problèmes, des lacunes, des déficiences, ça ne fonctionne pas comme on veut, il faut amener les employés à trouver eux-mêmes les solutions. Et c'est ça qui est intéressant dans leur philosophie, c'est faire appel aux employés, et ça sous la gouverne de leur superviseur, en appliquant des techniques éprouvées de résolution de problèmes. Le développement des employés, c'est une question de respect pour eux. Une entreprise doit faire en sorte que tous les employés deviennent meilleurs dans l'accomplissement de leurs tâches. Il ne faut pas considérer le personnel de recherche ou le personnel de l'éthique comme des gens, comme je disais, qui doivent faire la tâche et c'est tout. Mais on doit voir et les nourrir pour les développer dans ce qu'ils font, pour qu'ils deviennent meilleurs. Et si tous, chacun d'entre nous, devenons meilleurs, je pense qu'on va peut-être avoir des meilleurs résultats. On doit contribuer tous et chacun à l'innovation, au développement de nouvelles façons de faire plus performantes. Alors la question que je pose, tire-t-on le meilleur parti de toutes les personnes qui œuvrent au sein de l'entreprise de recherche? Est-ce qu'ils sont vraiment écoutés? Et parfois, j'ai l'impression qu'elles ne le sont pas. Mettons en profit leur savoir tacite. Je regarde le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Tous et chacun, vous avez, je dirais, une bibliothèque, une expérience, une expérience de vie que généralement votre collègue ne connaît pas. Mais si on mettait ça tout à contribution pour résoudre les problèmes, imaginez-vous qu'est-ce que ça pourrait faire. C'est une richesse qu'on n'utilise pas, et c'est ce que ces deux hommes-là disaient. Est-ce qu'on valorise le travail, l'intelligence et la créativité de tous ceux qui contribuent à l'entreprise de recherche? Élimination du gaspillage. Gaspiller, c'est pas éthique. Gaspiller des ressources, que ce soit énergétique, financière, humaine, ce n'est pas éthique. Et avant de regarder l'éthique chez les autres, on va regarder l'éthique chez soi-même. Taishi Ono, le père fondateur, disons, du système de production Toyota, disait qu'il y avait trois types de gaspillage. des termes japonais, le MUDA, des tâches sans valeur ajoutée mais acceptées. Est-ce qu'il y en a en recherche ou en éthique de la recherche des tâches qu'on fait qui n'apportent pas une valeur ajoutée mais qui sont acceptées? Muri, une tâche excessive, trop difficile ou impossible. On demande aux gens l'impossible, puis après ça, on est surpris qu'ils ne réalisent pas l'impossible. Et la morale, les irrégularités, les fluctuations ou la variation qui existe. Un des éléments de gaspillage, l'absence de synergie dans différentes composantes d'un système est source d'un gaspillage de ressources. Est-ce qu'on a mis toutes nos énergies en commun? Puis est-ce qu'on a fait travailler toutes ces énergies-là ensemble pour pouvoir accomplir le but commun qui est de développer des médicaments, des thérapies pour le plus grand bonheur au bien-être de tout le monde. La synergie reflète communément un phénomène par lequel plusieurs acteurs, facteurs ou influences agissent ensemble, et je reviens à la coopération, crée un effet plus grand que la somme des effets attendus s'ils avaient opéré indépendamment. Encore trop aujourd'hui, au nom de l'indépendance, on agit indépendamment, on n'essaie pas de collaborer pour solutionner les problèmes. Et c'est peut-être pour ça que les problèmes continuent et continuent. Et on le verra tantôt, la clé du succès se retrouve dans la coopération et la source des échecs, souvent, est dans le fonctionnement en silo. Et Dieu sait si encore aujourd'hui, on fonctionne en silo. Où est la synergie au sein de l'entreprise de recherche? Où est la synergie en matière de gouvernance? Les différentes composantes du système travaillent-elles ensemble dans l'atteinte d'un but commun? Deming disait, un système, c'est un réseau d'éléments interdépendants qui œuvrent ensemble dans la poursuite d'un but commun. Est-ce que tous ceux qui participent à l'entreprise de recherche ont conscience de ce que c'est que le système de l'entreprise de recherche et c'est quoi le but commun que tous les acteurs poursuivent? La duplication inutile et inefficiente de processus est un gaspillage de ressources. J'ai été abasourdi en faisant une étude d'optimisation, de voir pour certains projets de recherche que ça prend au minimum 6 évaluations par 6 entités différentes, qui vont peut-être arriver avec 6 perspectives différentes. Est-ce que cette duplication-là est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il n'y a pas une perte en quelque part? Constitue du gaspillage aussi le fait de ne pas écouter ses employés et de ne pas mettre à contribution leur intelligence, leur créativité. Ça, c'est une source de gaspillage, je dirais, qui passe souvent inaperçu. L'élimination du gaspillage, il faut identifier les problèmes, intervention immédiate, recherche des causes. Des causes profondes, pas les causes superficielles. Parce que souvent on dit, pourquoi il s'est enfargé? Parce que le tapis était soulevé. Mais là, il faut se dire, pourquoi le tapis était soulevé? Parce qu'il avait été mal fixé. Pourquoi il avait été mal fixé? Ben parce qu'on n'avait pas les outils pour le fixer adéquatement. Mais pourquoi on n'avait pas les outils pour le fixer adéquatement? Ben c'est parce que le contracteur ne fournissait pas les outils à ses employés. Puis pourquoi le fournisseur? Vous voyez comment il faut remonter. Donc, l'élimination du gaspillage doit porter sur l'élimination de tout élément qui n'apporte pas une plus-value à l'objet produit ou au service offert. Les multiples évaluations qu'on fait, est-ce que ça apporte une plus-value? Il y en a qui disent oui, il y en a beaucoup qui contestent le fait. Avoir un projet de recherche évalué par 15 comités, est-ce que ça ajoute une plus-value? Dans mon propre milieu, on avait un statisticien qui participait à un projet de recherche, faisait juste l'analyse statistique, mais le projet de l'autre institution devait passer à notre comité d'éthique pour une évaluation complète, y compris du formulaire de consentement. Une aberration. Et pourtant, on tolère ces aberrations-là. Il y a un problème. L'élimination du gaspillage précède l'amélioration continue, car il est presque impossible pour une entreprise de s'améliorer véritablement si ses processus ne fonctionnent pas de façon optimale. Donc, il faut faire une évaluation de ce que l'on fait, puis voir si on ne doit pas éliminer certains éléments. L'identification des problèmes, ne pas résoudre un problème lorsqu'il a été identifié, n'est pas éthique parce qu'il entraîne un gaspillage de ressources. Ça, c'est, on se regarde soi-même. Il y a un problème, je ne le résous pas, c'est pas éthique parce que c'est un gaspillage de ressources. Ne pas résoudre un problème lorsqu'il a été identifié constitue un manque de respect à l'égard de tous ceux qui sont affectés par le problème. Quand vous allez retourner chez vous, vous regardez dans votre milieu, puis regardez à quel moment vous manquez de respect parce que vous utilisez mal les ressources, parce que vous tolérez des choses qui font en sorte qu'on perde du temps puis que ça peut porter préjudice à des gens. Deming disait « Les problèmes d'aujourd'hui sont souvent les problèmes d'hier qu'on n'a pas eu le courage de régler. » Et ça, c'est très vrai. Et ça, je pense, c'est une leçon à garder. Le but poursuivi en identifiant les problèmes n'est pas simplement de corriger, encore plus important, et de se comprendre pourquoi ils se sont produits, d'en connaître et d'en comprendre. Souvent, on le connaît, mais on ne comprend pas. Alors, je sais ce que tu dis, mais tu comprends-tu ce que je te dis? C'est pas tout à fait la même chose. Alors, poser pourquoi, je pense que c'est fondamental si on veut arriver à identifier adéquatement les problèmes. Pourquoi les formulaires de consentement sont si longs et incompréhensibles? Encore aujourd'hui. Pourquoi autant de délais dans l'évaluation des projets de recherche? Pourquoi cette résistance au changement? Pourquoi ces multiples évaluations si différentes? Pourquoi cette absence de coopération entre les différents acteurs? Pourquoi cette impossibilité à uniformiser les formulaires de consentement? On a essayé durant des années et des années d'uniformiser les formulaires de consentement, puis c'était presque un échec. Mais là, il faut se poser la question, pourquoi? Mais il faut poser le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Il faut faire cette réflexion-là. Des exemples pertinents de tâches en valeur ajoutée, la multiplication des évaluations. Il n'y a personne à date qui m'a convaincu que 15 évaluations faites par 15 comités différents, c'est mieux qu'une évaluation faite par un comité avec des gens compétents qui mettent le temps voulu pour l'évaluer. Ça, il va falloir me faire la démonstration. C'est peut-être pour ça aussi que quand on regarde qu'est-ce qu'on fait avec le multicentrique, c'est peut-être la bonne voie où aller pour éviter des redondances, des multiplications inutiles sans valeur ajoutée. Tâche excessive, l'uniformisation des formulaires de consentement, irrégularité, fluctuation, la révision des projets de recherche qui est tellement disparate. Et il y a un article qui a été écrit sur pourquoi les décisions sont si disparates. Ça n'avait rien à voir avec la compétence des gens, mais aux interactions entre les gens. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai la référence. L'intervention immédiate. Dès qu'un problème ou une déficience sont constatés, une intervention immédiate est requise. On n'attend pas à demain, on le fait aujourd'hui. Je vois un problème, je règle le problème. Parce que ce problème que je ne règle pas, je vais l'avoir demain. La résolution d'un problème, la correction d'une déficience se fait en équipe. Ça ne se fait pas d'une façon isolée. C'est ce que les Japonais nous ont appris, c'est ce que Deming enseigne, c'est ce que Ono enseigne. La procrastination ou la remise à plus tard d'un correctif n'est pas tolérée par ces gens-là. Parce que c'est pas éthique. Parce que c'est pas éthique parce qu'on gaspille des ressources. Chez Toyota, un élément important pour vous montrer jusqu'où ils vont, l'entreprise Toyota s'est fait un point d'honneur de donner à tout employé le pouvoir d'interrompre immédiatement un processus déficient. Imaginez-vous un membre du personnel de recherche qui voit que le processus d'obtention d'un consentement éclairé est déficient, puis qui dit « on arrête tout ». Et misère, il ne gardera pas son emploi, puis peut-être bien longtemps s'il n'est pas syndiqué. Puis s'il est syndiqué, il va se faire quand même rabrouer. Mais dans l'industrie japonaise, tout employé, lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas correct, a le pouvoir d'arrêter et on résout le problème, pas lui tout seul, mais en groupe. Pensez à ça. Pour moi, ça, c'est éthique d'avoir cette mentalité-là. L'amélioration continue, le principe, ne pas s'améliorer continuellement n'est pas éthique. Quand quelqu'un me dit, moi, je suis satisfait avec le statu quo, bien là, je pense qu'il y a un manquement à l'éthique. Parce que le statu quo est contraire à l'amélioration continue. Aujourd'hui, je fais bien, demain, je dois mieux faire, puis après-demain, je dois encore mieux faire. Est-ce qu'on a cette mentalité-là, ce mindset-là? Très souvent, je dirais, on ne l'a pas dans certains milieux. L'amélioration continue, ça se fait par l'observation directe, la standardisation et la recherche de causes profondes. L'amélioration continue, là, pour vous l'illustrer, c'est ça la route Deming. Regardez, vous avez plusieurs, si vous allez sur Google Maps, là, vous allez trouver beaucoup de ces choses-là. Mais la route Deming, c'était créée, c'était même pas sa roue à lui, c'était son maître à penser, Walter Shewhart, qui l'avait développée. Ça, c'était en 1950. Après ça, Deming est arrivé dans les années 80 avec 14 principes de gestion. Puis après ça, en 1993, juste avant son décès, il est arrivé avec sa théorie de la connaissance profonde des systèmes. Je vous encourage à la lire. C'est fondamental et c'est ça, c'est l'aboutissement de toute son œuvre. Comment ça se fait, l'amélioration continue? C'est d'abord par une observation directe. Si vous voulez solutionner un problème, il faut aller voir le problème sur place. Si vous avez des questionnements sur est-ce que les gens comprennent bien les formulaires de consentement, bien, il faut aller voir sur place. Il faut aller voir sur étude, puis regarder comment ça se passe. Autrement, vous allez avoir une idée. Puis, les rapports, c'est pas ça qui va nous apporter, si vous voulez, la connaissance profonde. L'observation directe est de loin préférée au rapport écrit parce qu'elle permet mieux de saisir l'essence d'un problème et les causes profondes. Elle permet de saisir les interrelations qui existent. Souvent, les interrelations sont les facteurs déterminants des problèmes que l'on a et non pas un individu ou l'autre individu pris isolément. Un problème résulte souvent de l'interaction entre plusieurs éléments. Cette interaction doit être observée, mais ça doit être une observation intelligente. Il faut se poser des questions. Je m'en vais là. Pourquoi est-ce que s'il y a une déficience, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette déficience-là? Une observation intelligente, aller sur le terrain. J'étais 5 ans au conseil d'administration d'Urgence Santé et durant ce temps-là, j'ai fait des centaines d'heures sur la route pour aller voir qu'est-ce qui se passait, pour comprendre quels services on donnait. J'ai fait la même chose avec les policiers de Montréal. Donc, moi, je l'ai subi cette épreuve-là et je vous dis, c'est important d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. La standardisation des processus, je ne m'étendrai pas tellement longtemps. S'il y a quelque chose de standardisé dans le domaine de la recherche, c'est bien la recherche et l'éthique de la recherche. On a des standards, des guides, des normes, et j'en passe, et des meilleurs. Mais dans l'esprit de Deming et de Ono, pourquoi est-ce qu'on a des standards? C'est pas simplement pour dire on les applique, c'est tout. On raconte une anecdote où un dirigeant japonais de Toyota s'en va dans une usine, puis américaine, puis le gérant est tout content de lui dire « Hey, voici nos standards. » Puis là, on lui dit « Mais c'est les standards qui datent de quand? » « Bien, d'un an. » « Mais vous les avez pas fait évoluer. Vous n'êtes pas amélioré. Les standards, c'est fait pour être améliorés. » Ça nous permet de faire du benchmarking. La recherche des causes profondes, avant même de mettre en place des mesures d'amélioration, il faut chercher les causes profondes. Et ça, c'est un mindset qu'on doit aller. Pourquoi ça s'est arrivé? Et ça, c'est la théorie des 5 pourquoi. Ce qu'on dit en anglais, the 5 whying. Il faut toujours se poser cette question-là. Et ça, c'est une question, comme je vous dis, d'état d'esprit ou de mindset. Une fois qu'on a commencé à le faire, ça change dramatiquement nos perspectives. Les causes profondes. Parfois, on regarde un problème. Le problème n'est pas toujours apparent. Il m'arrive souvent quand on me demande en consultation, la première chose que je fais, j'écoute les gens. J'écoute les gens durant 30 minutes, 45 minutes, pour m'apercevoir à la fin qu'il me faut que je leur dise, vous savez votre problème, vous pensez que c'est ça, mais il est peut-être ailleurs votre problème. Avec tout ce que vous m'avez dit, on va réfléchir pour voir si votre problème n'est pas ailleurs. Donc, le plus important, c'est pas de corriger le problème, mais c'est de comprendre pourquoi le problème est survenu. Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi le problème est survenu, ben on va le solutionner. Et je vous donne un exemple. Moi, dans ma vie personnelle, j'avais le malheur de perdre mes verres à la maison parce que je quittais mon ordinateur, puis là, je m'en allais, puis j'ai laissé un peu partout. Puis là, je me disais, c'est simple, je vais en acheter 4 paires. Une pour la cuisine, une pour la chambre, une. Puis là, je me suis dit, ça, c'est un gaspillage de ressources. Hein? C'est un gaspillage de ressources d'une façon plus intelligente. Alors, je me suis dit, tu vas toujours laisser tes verres à côté de ton ordinateur. Alors, quand je quitte mon bureau, puis je suis rendu dans l'escalier avec mes verres, petite lumière qui s'allume, tu vas reporter tes verres près de l'ordinateur. Comme ça, tu es certain que tu ne les perdras pas. C'est ces états d'esprit qu'il faut développer, et c'est au contact de Taishi Ono et de Deming que j'ai pu réaliser tout ça. Alors, conclusion. Quels sont, d'après vous, les plus grands défis auxquels est confrontée l'entreprise de recherche? Vous pourrez donner vos réponses dans la période de questions. L'entreprise de recherche est-elle en mesure de relever efficacement ces défis? Question, pourquoi n'est-on pas en mesure d'avoir des formulaires de consentement qui sont adéquats en termes de compréhension? Souvent, c'est incompréhensible et souvent, on fait ça exprès. pour rendre ça incompréhensible. Et j'ai eu un exemple récemment où quelque chose était tout à fait incompréhensible. J'ai demandé au chercheur comment ça se fait que c'est aussi incompréhensible. Et sa réponse a été, c'était rédigé par des avocats. Honte, honte à moi et honte aux avocats. Et c'était la réalité. C'était tout à fait incompréhensible et c'était évident. Pourquoi on n'est pas en mesure de réduire les délais? Pourquoi on ne peut pas avoir plus de collaboration? Pourquoi on n'est pas en mesure de résoudre les problèmes qui perdurent et qui perdurent? Posez-vous la question. Pourquoi on n'est pas... On peut dire la même chose en société. Pourquoi on n'a pas été en mesure de résoudre plus précocement le problème de l'itinérance? Il y en a combien? Parce qu'on n'a pas coopéré, parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et pourquoi il y a ce manque de synergie? Je vous dirais, pour donner une vision globale, si vous regardez votre entreprise ou si vous regardez votre milieu, il y a différentes strates que l'on peut voir. Il y a la culture, le mindset, les pratiques, les actions. Ce qui est déterminant, moi, dans tout ça, pour changer les pratiques, les actions et changer la culture, il faut changer, je mets mindset, parce que ça traduit mieux que état d'esprit. Il faut changer notre façon de voir. Il faut qu'il y ait un petit clic qui se fasse puis qui disent « Non, c'est plus comme ça que je fonctionne, ça va être autrement. » Il faut se conditionner l'esprit à dire « Non, je n'accepte plus les problèmes et je fais en sorte de les résoudre aujourd'hui et pas demain. » Et c'est ce que ces deux grands hommes qui étaient Deming et Ono nous ont appris. Ça nous vient, comme on dit, tout ce qui s'appelle qualité pour une bonne part, nous vient de l'Ouest et pas uniquement de l'Est. On a sous-estimé la part de ce que les Japonais ont pu apporter et ce qui s'est passé entre 45 et 50 au Japon. Je reviens d'un séjour au Japon. J'ai été fasciné par un tas de choses. Leur discipline. Au coin des rues, il y a 50 personnes. Il y a un feu rouge. Il n'y a personne qui traverse. À Tokyo, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de papier. Tout le monde ramène ses ordures chez soi. La politesse, je ne sais pas qu'ici on n'a pas de politesse, je pense qu'on en a beaucoup. Mais moi, ce qui m'a été impressionné, c'est quand vous cherchez votre chemin, les gens disent, un instant, je vais aller avec vous, vous montrer. Ils arrêtent ce qu'ils font. C'est une discipline, c'est un état d'esprit qu'il va falloir développer. Alors, je vous souhaite une bonne continuation. Je pense que j'ai été assez dans mon temps. Merci beaucoup.